contrôle de Dieu. Amen. C'est ça qu'il nous faut. Hein. Voilà, hein. On a besoin de la parole du Seigneur. Et je voudrais que nous puissions aller dans l'Ancien Testament. Normalement, dans votre Bible, vous avez les deux. Vous avez l'Ancien et le Nouveau. Voilà, l'Ancien et le Nouveau Testament, Péricot. Normalement, toi aussi. Voilà. Et nous allons aller dans le deuxième livre des Rois. Et je vais vous donner une indication. Le deuxième livre des Rois se trouve après le premier livre des Rois. Je ne peux pas faire mieux. Hein. Et le chapitre 6e et le verset 1er. J'ai donné comme titre là la méditation de ce matin. Un zèle ressuscité. Un zèle ressuscité. Vous allez voir de quoi nous allons parler. Il nous est dit ceci. Les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. » Élisée répondit, « Allez. » Et l'un d'eux dit, « Consent à venir avec tes serviteurs. » Il dirait, « J'irai. » Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté !» L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ?» Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, « Enlève-le !» Et il avança la main et le prit. Amen. Gloire à Dieu. Voilà un épisode du ministère du prophète Élisée, où nous le voyons réaliser ce miracle, tandis que les fils des prophètes, on va déterminer un peu qui est tout le monde, eh bien, sont en train de s'affairer. L'un d'eux, eh bien, perd le fer de sa hache, tandis qu'il travaille au bord du Jourdain. Alors, il est embêté parce que c'est pas lui, cette hache, et il a perdu le fer. Et à l'époque, eh bien, le fer, on est... alors là, il faudrait que je me tourne vers les spécialistes. On est dans quoi ? Dans l'âge de bronze ? Dans l'âge de... Voilà. Au temps de l'Antiquité, c'est quelque chose qui a vraiment de la valeur. Hein. On n'obtient pas voilà, ça comme ça facilement. Il n'y a pas la boîte à outils, ou etc. Hein. Ça n'existe pas à cette époque-là. Et donc, il est très, très embêté. Mais voici, eh bien, le prophète Élisée va, après avoir coupé un bois, va le jeter à la place où le fer est tombé dans l'eau. Et voici qu'il se passe un miracle, parce que c'est le bois qui ramène eh bien, à la surface le morceau de fer, et l'homme n'a qu'à le saisir. Et c'est pour cela que eh bien, j'ai voulu parler d'un zèle qui est ressuscité, parce que eh bien, le fer de cette hache eh bien, nous parle du tranchant de notre vie, du zèle à servir le Seigneur. Et je crois et nous pensons que eh bien, les temps que nous avons passés eh bien, ont pu comme nous ralentir, c'est vrai, de toute façon dans nos activités. Alors on a fait, et gloire au Seigneur, on a relevé les manches, alléluia, et par la grâce de Dieu on a relevé le défi. On a eu des réunions sur Zoom, sur WhatsApp, sur WhatsApp, je ne sais pas, mais enfin bon, bref, YouTube, il y a des mots que je ne connaissais pas, je les ai appris, voilà, et voilà, le Seigneur a béni, mais il me semble que nous avons besoin eh bien, de retrouver eh bien, ce zèle et le plan initial du Seigneur pour nos vies et pour l'Église eh bien, tout entière, alléluia, afin que nous n'entrions pas dans une espèce d'habitude eh bien, qui ferait que, eh bien, voilà, on est sorti eh bien, de ces temps de confinement, maintenant eh bien, on va attendre que le temps passe, mais le Seigneur désire que nous le servions toujours, alléluia, et qu'il soit eh bien, même eh bien, le premier servi. Alors nous allons trouver ici, bien dans ce texte, eh bien, la vision qu'il faut pour l'Église. Nous allons voir également la sagesse eh bien, que l'Église a besoin pour entrer eh bien, dans cette vision. Et puis on va découvrir eh bien, que nous avons besoin d'un zèle, mais d'un zèle qui soit pur. Et nous terminerons eh bien, en découvrant que si on avait perdu ce zèle, le Seigneur est celui eh bien, qui donne le vrai secours, le bon secours pour retrouver ce zèle. Alléluia ! Vous êtes là ? Amen ! Si vous êtes là, ça veut dire que les affaires de votre père vous intéressent. Vous savez, à l'âge de 12 ans, on a retrouvé le Seigneur, enfin, Joseph et Marie, ont retrouvé le Seigneur Jésus. pensaient qu'il était eh bien, avec leur compagnon de voyage. Il rentrait de Jérusalem à Nazareth et à la fin de la journée, ils ne l'ont pas retrouvé. Et ils avaient commencé leur chemin sans Jésus. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait machine arrière. Ils sont retournés à Jérusalem. Et pendant 3 jours dans cette grande métropole, pour l'époque, eh bien, ils ont tourné dans cette ville pour essayer de retrouver Jésus qui avait 12 ans. Et finalement, ils l'ont retrouvé dans le temple, en train de parler, de discuter, de poser des questions, d'apporter des commentaires, eh bien, avec tous les docteurs de la loi qui étaient eux-mêmes impressionnés. Et Jésus dira ceci, eh bien, ne saviez-vous pas qu'il fallait que je m'occupe, qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père, alléluia. Et je crois qu'en venant dans cette maison, bien sûr, nous voulons apporter notre reconnaissance, nous voulons dire Seigneur, mais gloire à toi, et puis on a prié, nous avons des besoins, mais peut-être également dire Seigneur, bien, que veux-tu que je fasse ? Que veux-tu que je fasse ? Et ici, nous voyons que dans ce texte, eh bien, il y a eu un constat des fils des prophètes. Alors les fils des prophètes, je vous ai dit que j'allais le dire, eh bien, les fils des prophètes, ce n'est pas des hommes qui étaient, qui avaient des leur papa, ce n'étaient pas des prophètes, au sens, j'allais dire, biologique du terme. Mais c'était des gens qui étaient attachés à l'enseignement des prophètes, l'enseignement des prophètes. Et de telle sorte que, eh bien, ils se nourrissaient de leur enseignement, ils étaient avec eux, ils consacraient leur vie à l'écoute de leur ordonnance, etc. Et alors on disait, mais eux, ce sont les fils des prophètes. Traduisez en langage un petit peu d'aujourd'hui, ce sont leurs disciples. Ce sont leurs élèves, vous voyez, leurs élèves. Et là, eh bien, ces hommes-là, eh bien, qui se trouvent en train de, eh bien, au bénéfice de l'enseignement du prophète Élisée, eh bien, font ce constat. Le lieu où nous sommes assis devant toi, eh bien, il est trop étroit. Alors, ça, c'est un bon problème lorsqu'il y a un lieu, eh bien, qui est pas assez grand. Il faut, ça veut dire que le Seigneur, il est en train de bénir. Alléluia, gloire à Dieu. Mais je pense que, au-delà de la taille du bâtiment, cela doit nous toucher et dire, Seigneur, dans notre génération, vraiment, Seigneur, il n'y en a pas assez qui te connaissent. Il n'y en a pas assez qui sont sauvés. Il n'y en a pas assez qui connaissent le nom de Jésus. Et vous savez que l'Église a reçu quand même un mandat. Matthieu 28 et verset 18, et le Seigneur dira, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ça y est, j'ai tout accompli. Satan est vaincu, la mort est vaincue, le péché est vaincu, alléluia. Et le Seigneur dit ceci, mais allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Et parfois, nous nous posons la question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse, ceci, cela. Mais il y a une vision clairement établie pour l'Église et qui vient de la part de Dieu, c'est d'être des témoins, alléluia, d'apporter le témoignage que Dieu aime cette génération, alléluia, cette génération qui a passé ce Covid, cette génération qui est perdue, qui est parfois eh bien, extrêmement cynique avec tout ce qui se passe. Avec les pré-ados et les ados, la semaine dernière, il y a quelque temps en arrière. Vous savez, les ados, ils ont des oreilles comme ça. Ils écoutent tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Hein. Et notamment la politique. Hein. Il y a un gamin. Alors, il y avait des... Et Zemmour, et ceci, et cela. Voilà. Hein. Et il y en a un pour provoquer, je le connais bien. Il y a sa maman ici. Il m'a mis la photo de Zemmour sur son portable. Il dit, mais qu'est-ce que... Alors bon, bref. Et on s'aperçoit que, il y avait une forme de, voilà, de décalage. Il y avait une forme, voilà, de moquerie, etc. Et mais on voit que on est dans une situation, dans un monde qui a besoin vraiment d'authenticité et de découvrir l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Et nous le savons, nous le connaissons. Et je voudrais vous dire merci Seigneur, parce que dans toute cette période dont j'ai parlé de confinement, Dieu nous a gardés, Dieu nous a bénis, alléluia, amen. Il y a eu des moments difficiles, mais le Seigneur nous a soutenus, alléluia. Et tandis qu'il y a un peu comme un état de voilà, sclérosé, eh bien le Seigneur veut nous dire, allez, c'est le commandement du Seigneur, allez par toutes les nations. Ésaïe 54, verset 2. « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. » Ces fils des prophètes, ils étaient à l'étroit dans le local dans lequel ils étaient, mais dans leur cœur, ils n'étaient pas à l'étroit. Il y avait un cœur pour le Seigneur, il y avait un cœur pour l'œuvre de Dieu. Ils étaient prêts à sacrifier toutes sortes de choses pour servir le Seigneur. Et me dit Seigneur Jésus, est-ce que nous avons toujours ce zèle, ce feu pour te servir, pour faire connaître le beau message de l'Évangile? On ne devrait jamais le perdre. Parce que comme si nous l'avons chanté tout à l'heure, nous glorifions ce Dieu merveilleux pour son amour et que l'on dit mais rien ne peut le contenir, ton amour. Mais alors si nous nous exprimons de cette manière-là, nous aussi on devrait témoigner d'un amour extrêmement fort envers notre génération. Alléluia. Parce que l'amour s'est donné. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Alléluia. Et que nous puissions dire, Seigneur, moi aussi, Seigneur, tu veux m'employer. Eh bien, pour que je puisse donner ce que j'ai reçu. Je n'ai pas d'or, je n'ai pas d'argent. Ce n'est pas ça que le monde a besoin. Ce que le monde a besoin, c'est de Jésus-Christ. Ce que j'ai, je te le donne. Alléluia. Ce que j'ai reçu de la part du Seigneur, ce salut merveilleux, eh bien, moi aussi, eh bien, je veux le donner. Alléluia. Et ces hommes sont entrés dans cette vision. Amen. Je voudrais que, vraiment, nous puissions nous affermir dans cette vision. La vie chrétienne, c'est une vie qui entre et qui sort. C'est une vie qui entre dans la présence de Dieu, où on a des temps comme celui-ci, où le Seigneur nous visite, nous fortifie, on apporte notre reconnaissance au Seigneur, on est réconforté, on est renouvelé, alléluia, on se recharge les batteries, amen. Mais c'est une vie qui sort également. Certains voudraient être toujours dehors et toujours dedans. Non, non. Tu rentres, le Seigneur te remplit, te renouvelle par son esprit, par sa parole, mais il t'a destiné à sortir pour être un témoin efficace dans ton époque. Et vous avez remarqué que dans ce texte-là, il nous est dit ceci, il devait couper des poutres, il devait couper des arbres pour en faire une nouvelle habitation. Moi, ça me parle parce que quand on lit la parole de Dieu, les hommes sont comme des arbres. Quand la Bible parle des hommes, elle en parle comme s'ils étaient des arbres. Souvenez-vous, le psaume 1, l'homme qui craint l'Éternel, il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Tout ce qu'il fait, lui réussit, il porte du fruit en toute saison. Et l'homme, c'est comme un arbre. Je voudrais faire appel à quelques souvenirs de vos lectures assidues du livre de l'Exode. Vous lisez le livre de l'Exode ? Amen. Merci Seigneur. Inès, alléluia pour le livre de l'Exode. Et vous y trouverez la description du tabernacle. Certains, et c'est vraiment très intéressant, s'attardent sur le livre de la Genèse, chapitre 1er. Ils disent, ah oui, c'est merveilleux. Et c'est vrai, c'est fantastique lorsque on lit la création, etc. Mais le but de Dieu, ce n'est pas tellement de nous dire qu'il a créé le monde, qu'il a créé l'univers. C'est important de le savoir. Mais à l'époque de Moïse, c'était quand même une idée reçue. L'Éternel, c'est Dieu, il a créé toute chose. Par contre, ce dont la Bible nous parle, c'est la qualité de notre relation avec Dieu. Et alors là, il y a le tabernacle. Et le tabernacle, 20 chapitres en parlent. Pas un, 20. Et il décrit en détail ce qui va se réaliser en Jésus-Christ. Et nous voulons comprendre une chose, c'est que le Seigneur veut faire de nous une habitation de Dieu. Et il veut que nous soyons de ces hommes, de ces femmes qui travaillons avec lui et qui faisons en sorte que d'autres hommes, d'autres femmes puissent être dans ce lieu, entendre la parole de Dieu, mais plus que d'être dans ce lieu, avoir leur nom inscrit dans le livre de vie. Alléluia! Dans le tabernacle, il y avait ce lieu, le lieu saint, le lieu très saint, qui était confectionné de planches de bois d'acacia, qui était recouverte d'or, et cela faisait la maison, et la maison du Seigneur, la maison de Dieu, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, et eux étaient sortis armés pour de ces haches, pour couper de ces hommes, ces arbres, pour en faire une habitation. Et nous, avons-nous, frères et sœurs, cette vision de dire, cet homme-là, ce collègue de travail-là, ce membre de ma famille-là, Seigneur, je veux avoir la vision qu'il soit dans ta maison. Alléluia. Vous l'avez chanté tout à l'heure. Hein. Et dans ta maison, j'ai trouvé ma place. Vous avez votre place, Véro. Alléluia. Amen. Tu as ta place. Merci Seigneur. Il y a deux Véro là, j'ai en ligne de mire. Voilà. L'une derrière l'autre. Mais d'autres, eh bien, sont appelés. Je me souviens d'une prédication. Vous savez, des fois, on écoute des... C'est une des seules prédications que j'ai entendues du frère Douglas Scott. Vous avez entendu parler de Douglas Scott ? Alors, des temps de réveil formidables en France. Si vous avez besoin d'infos sur les temps de réveil, vous allez voir Patrick. Voilà, il a plein de documents à vous donner. Et c'est merveilleux. Et je me suis dit un jour, quand même, ça devait être un prédicateur hors pair, Douglas Scott. Il devait prêcher. Les gens, il y avait des guérisons, il y avait des repentances, il y avait des... Alors j'ai écouté et je vous assure, j'étais déçu. J'étais vraiment déçu. Alors, la qualité, elle n'était pas terrible, déjà. Mais alors, il parlait avec un accent anglais. C'était déjà dur à comprendre. Et alors, il ne faisait pas d'excès de voix ou tout ça. Non, c'était simple. Et je me souviens qu'il prêchait sur, justement, là, le tabernacle, les planches d'acacia. Il nous disait, il faut sortir les hommes de la forêt du péché. Il faut la forêt du péché. Il faut couper les racines. Il faut couper les branches. Il faut faire attention aux nœuds. Et puis il faut raboter, parce que dans la maison de Dieu, on doit être doux. On ne doit pas être rugueux. Vous voyez? Amen. Il faut être doux. Il faut pas être rugueux. Il faut être doux, pas être rugueux. Puis recouvert d'or. Alléluia. Une nouvelle nature. Merci Seigneur. Alléluia. Et donc tout cela, eh bien, ça nous appartient, mes frères et sœurs, d'avoir cette vision, de dire, mais Seigneur, eh bien, tant d'hommes et tant de femmes sont ancrés dans des fausses doctrines, dans des fake news, dans toutes sortes, eh bien, de compromis. Ils sont perdus, il faut les sortir de là. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez cette vision? Parce que si nous ne l'avons pas, le Seigneur, lui, l'a pour nous. Et je ne vais pas répéter Matthieu 28 que je vous ai cité, mais Marc 16, allez partout. Toute la création est prêchée la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Alors, quelqu'un, entre ces fils des prophètes, c'est étonnant, il n'y en a qu'un seul, qui pense à une chose et qui parle à Élisée et il lui dit ceci, eh bien, consent à venir avec tes serviteurs. Élisée, c'est un homme de Dieu extraordinaire, c'est le successeur du prophète Élie. Et Élisée, ça veut dire Dieu est sauveur. Et son ministère est marqué par des miracles, et notamment des résurrections. Le dernier miracle qu'il produira se fera après sa mort. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais à la hâte, on va enterrer, mettre dans le sépulcre du prophète Élisée un homme qui venait de mourir. Le cadavre touche les os du prophète, et il ressuscite. C'est quelque chose, ça. Hein. Et souvent, on voit Élisée... dans ces miracles, amener des choses eh bien, qui n'existent pas et il les amène à l'existence. Des choses qui sont perdues irrémédiablement, comme le fer là, qui est tombé dans l'eau, et il revient à la surface. Ça parle de résurrection, ça parle de victoire sur la mort, victoire sur tout ce qui est capable de nous séparer. Et là, il y a un de ces hommes qui dit « consent à venir avec nous ». Il a eu bien fait, qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que parfois, on peut être rempli de bonnes intentions pour le Seigneur, en disant, Seigneur, je veux te servir, Seigneur, je veux faire ceci, Seigneur, je fais cela, je veux faire cela. Et puis, on oublie de prendre le Seigneur avec nous. Souvenez qu'avant que le Seigneur envoie ses apôtres eh bien, de par le monde, il leur dira, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous recevrez et vous serez, et vous deviendrez. Pour que tu deviennes, pour que tu sois, il faut que tu reçoives quelque chose qui vienne de la part de Dieu. Pour être un témoin authentique, il faut que tu reçoives cette onction du Saint-Esprit, la vie de l'Esprit en toi. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Il pouvait le dire, Pierre, parce qu'il avait quelque chose à donner. Alors certains d'entre nous vont dire, oui, mais c'était l'apôtre Pierre, c'est normal. Oui, mais c'est la promesse du Saint-Esprit et du baptême de l'Esprit et de la vie de l'Esprit. Elle est pour chacun d'entre nous. Alléluia. Et nous voulons dire, Seigneur, eh bien, avoir cette sagesse. Oui, Seigneur, je veux te servir. Oui, je veux travailler pour toi, mais pas sans toi. Et même travailler avec les motivations que toi, tu mets dans mon cœur. Alléluia. On n'est pas en train de servir une gloriole personnelle. On n'est pas en train de servir, j'allais dire, des désirs charnels parce que ça nous fait plaisir de faire tel ou tel service. Mais on veut servir le Dieu vivant et vrai. Alléluia. Amen. Et frères et sœurs, eh bien que nous puissions dire et que tu puisses dire peut-être dans cette matinée, j'étais comme Pierre. J'ai jeté mon filet dans ma famille. J'ai voulu pêcher toute la nuit. J'ai rien pris. Seigneur, je me sens vide. Je me sens fatigué. J'ai pas de victoire. Et peut-être certains sont découragés. J'ai pas de victoire. Vous savez que Jésus va faire un miracle extraordinaire dans la vie de Pierre. Il va y avoir une pêche miraculeuse. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est écrit dans la Bible. Et Pierre lui dira, mais Seigneur, on a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Jésus va monter dans la barque avec lui. Il va se rendre sur le lieu de son échec. Et au lieu de rester stérile, il va voir, eh bien, j'allais dire, oui, cette pêche miraculeuse, un coup de filet extraordinaire. Alléluia. Nous avons besoin de Jésus pour être tranchant. Je voudrais vous parler d'une dame que vous n'avez pas connue, qui s'appelle Madame Imadez. Et lorsqu'elle a rencontré le Seigneur, c'était une dame qui était en pleine dépression. Alors là, le témoignage pentecôtiste. Hein. Dépressive, une pied-noire dépressive. C'est possible ? Eh ouais. Et alors, ça empirait lorsque son père est mort. Lorsque son père est mort, tentative de suicide. C'était son monde qui s'écroulait, etc. Et puis un jour, une autre pied-noire lui a parlé. Tu sais, on se rencontre dans la maison d'une amie. Et là, on est ensemble. On prend un petit thé, un petit café, et il y a le pasteur qui vient, il ouvre la Bible, et on parle de Dieu, on prie le Seigneur. Elle est venue, elle dit, ben, et elle était avec des séjours en hôpital psychiatrique, etc. Elle était vraiment... Et elle vient, elle écoute. Et là, il y a une révolution dans sa vie. Le Seigneur a chassé ses désirs de mort. Ses désirs de suicide. Il a fait d'elle une femme nouvelle, alléluia. Mais lorsqu'elle nous racontait et nous rendait témoignage, mais on avait peine à le croire parce que ce n'était pas ça qu'on voyait, nous. Je vais vous dire même une chose qui lui est arrivée. Voilà, il y avait une mission, je me souviens très bien, une mission d'évangélisation. Elle était là, elle est venue avec sa fille. Bien sûr, elle était au Seigneur, sa fille. Elle a vu tout ce qui s'était passé dans la vie de sa mère et les petits-enfants aussi. Et voilà, alors, elle est dans sa voiture et là, elle revient de nuit et en face, il y a un chauffard qui s'est enfui d'ailleurs, alors il a dû perdre le contrôle du véhicule, il vient dans la file en face d'elle. Et ils étaient sur un pont et elle, la fille, elle a peur. Blam, elle se prend la rambarde et la voiture, un pneu dans le vide. Vous voyez le truc. Alors, blam, le truc, tout ça, l'épaule en vrac, les pompiers qui arrivent. Attendez, mesdames. Et Madame Ibanez, je me souviens, avec son épaule en vrac, la mamie, hein, je veux dire, 70 ans, hein, dans la voiture qui revient de la mission d'évangélisation à 23h, voilà. La vraie pentecôtiste, hein, qui en veut, alléluia, qui parle aux pompiers, mais je suis heureuse que vous soyez là. Je vais vous parler de Jésus avec son bras. Et elle leur parle du Seigneur. Vous avez besoin de Jésus, t'es jeune toi, t'as la vie devant toi, mais t'as besoin de faire une rencontre personnelle avec Jésus, alléluia. Mais elle avait le feu, alléluia. Amen. Et je voudrais dire, mais mon frère, ma sœur, est-ce que nous avons toujours, est-ce que lorsque nous quittons notre foyer, notre maison le matin, est-ce que nous avons revêtu l'armure ? Est-ce que nous avons le casque du salut, le bouclier de la foi ? Est-ce que nous avons les armes de l'esprit ? Alléluia ! C'est à propos pour parler eh bien, de Christ en toute occasion, favorable ou non, alléluia ! Et chers frères, chères sœurs, eh bien, peut-être avons-nous besoin, comme cet homme, de retrouver eh bien, notre zèle pour servir le Seigneur. La Bible nous parle dans Tite, au chapitre 2 et au verset 14, d'un peuple zélé, pour les bonnes œuvres. Souvenez de Saul de Tarse, j'ai cité tout à l'heure une des deux questions qu'il va poser lorsqu'il va voir le Seigneur. La première, ça sera « Qui es-tu, Seigneur ?»« Je suis Jésus que tu persécutes. » Deuxième question, « Que veux-tu que je fasse ?» Il a tout de suite compris. Hein. Il est le maître, il est le Seigneur, mais je suis sauvé pour servir. Alléluia. Et nous avons besoin peut-être de nous poser la question. eh bien, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Et peut-être même avant de dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Parce que ça, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Mais forme en moi l'esprit d'un serviteur. Et je crois que ça, c'est encore quelque chose de très important. Parce que faire pour faire, ça ne sert à rien. Voyez ? Mais on ne sert pas le Seigneur comme on va à l'usine. On sert le Seigneur avec des qualités eh bien, qui sont spirituelles. Quoi qu'un chrétien, même quand il va à l'usine, il sert le Seigneur. Il a un état d'esprit envers ses collègues de travail, envers son patron, envers ses clients, alléluia. On devrait le remarquer, alléluia. Et chers frères et sœurs, eh bien, nous avons besoin, et certainement, eh bien, de retrouver eh bien, un zèle. Et vous avez remarqué ici, dans ce texte, il nous est dit eh bien, que le fer qui est tombé dans l'eau, eh bien, il était emprunté. Je vous ai parlé de la valeur à cet âge-là, à cette époque-là, eh bien, des minerais métalliques et du fer en particulier. Et il va dire, eh bien, c'était pas à moi. C'était pas à moi. Et vous savez, quand il y a quelque chose qui n'est pas à soi, on devrait en prendre soin, mais c'est pas à moi. Je ne connais pas vraiment la valeur de cela. Voyez. Et c'était emprunté. Et ça nous montre peut-être que ce garçon-là, eh ben, il n'a pas été assez précautionneux parce que ce n'était pas ses affaires. Il s'est rendu compte de la gravité de ce qu'il avait fait lorsqu'il a perdu, bien sûr. De la valeur que ça avait lorsqu'il a perdu. Mais ça nous parle aussi quand même de quelque chose, de dire, mais Seigneur, avec quels sont les mobiles ? Est-ce que je viens te servir ? Est-ce que je te prie ? Parce que je suis sous l'influence de je ne sais d'une comment dire d'une une ambiance une bonne ambiance voilà il y a des amis qui sont avec moi ils aiment le Seigneur alors je les suis parce que eux ils y vont. Je me souviens dans une certaine assemblée il y a eu une vague comme ça où des ados se sont fait baptiser. Et dans un certain service de baptême, je crois qu'il y avait 4 ou 5 ados, c'était vraiment beau. Puis il y en avait un aussi qui voulait se faire baptiser avec eux, mais lui, il voulait faire comme les autres. Il était pris dans... Et heureusement, le Seigneur l'a arrêté. Il s'est passé certaines choses pour qu'il ne se fasse... Il s'est fait baptiser plus tard, ça a été sa décision personnelle. Mais parfois, on obéit à une espèce d'enthousiasme, l'ambiance est bonne, on m'a encouragé, on m'a fortifié, etc. Et mes frères et sœurs, je crois qu'on a besoin, nous aussi, d'encourager, mais pas de prendre des décisions à la place eh bien, des uns et des autres, et que le Seigneur eh bien, nous aide à cela. Et cet homme eh bien, avait besoin de retrouver eh bien, un zèle pur, et peut-être quelqu'un a-t-il besoin eh bien, de retrouver un zèle pur. Je me mets aussi eh bien, dans la situation, Seigneur, que lorsque nous te servions, ne servions pas pour nous faire plaisir à nous-mêmes, mais c'est toi que nous voulons mettre en évidence. Alléluia. Et cet homme, eh bien, avait un zèle, eh bien, qui voilà, un fer qui était emprunté, il est tombé dans l'eau et il s'est trouvé complètement découragé. Et c'est là où je parle d'un zèle qui est ressuscité. Et peut-être quelqu'un est dans cette situation en disant, mais je t'ai servi, Seigneur, mais il s'est passé tellement de choses. Je t'ai servi, Seigneur, mais voilà... Je me suis comme arrêté dans ma vie de prière, même dans mon engagement personnel au milieu du peuple de Dieu, etc., etc. Il peut y avoir toutes sortes de situations, etc. Et si c'était le moment de dire, Seigneur, quelles sont les priorités ? Et si c'était le moment de dire, Seigneur, mon Dieu, jette le bois dans mon cœur. Jette comme tout à nouveau, eh bien, fais-moi réaliser encore tout à nouveau, ton œuvre, la croix, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père, tout est accompli. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Un engagement sérieux, un engagement authentique pour le Seigneur. Parce que le Seigneur, et ça c'est quelque chose de véritable, il ne se repent pas de son appel. Amen. Gloire à Dieu. Il ne se repent pas de son appel. Et il a ramené eh bien, cet homme eh bien, qui avait perdu son mordant, qui avait perdu son tranchant. Quand je parle d'un fer et d'être tranchant, ça me fait penser à Gédéon. Vous vous souvenez dans la Bible, Gédéon ? cet homme dont le mot veut dire tranchant. Ah, c'est si l'Éternel était avec nous. Et Dieu qui lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Ouais, mais je suis le plus petit. Lui, il avait perdu son tranchant. Hein. Alors son zèle, il avait complètement perdu. Il en restait un petit peu quelque chose parce qu'il se cachait pour sauver une partie de la récolte des ennemis. Et c'est pour ça là, qu'il était au travail et que Dieu l'a vu. Pour cela. Mais on s'aperçoit que c'était un garçon qui était introverti, il n'osait plus s'exprimer, etc. C'est terrible. Alors qu'on devrait être des vainqueurs, de se considérer comme des vaincus. Alors que dans le monde dans lequel on est, eh bien, le péché est là, ça diffuse dans tous les sens. Les gens n'ont pas honte de raconter toutes sortes de plaisanteries salaces. Et c'est quand même vexant de voir des enfants de Dieu qui n'arrivent pas à dire quelque chose, à faire la différence. Vous êtes le sel de la terre, nous dit le Seigneur. Vous êtes la lumière du monde, alléluia. Et Dieu dira à Gédéon, mais l'Éternel est avec toi, vaillant héros, et je serai avec toi. Alléluia. Amen. Et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Et peut-être et certainement, eh bien, mes chers frères et sœurs, nous avons besoin eh bien, de connaître, comme tout à nouveau, un sauvetage de notre foi. Un sauvetage eh bien, d'une foi conquérante, d'un service authentique, non pas pour se faire plaisir en disant « voilà, je veux que ce soit... » Non, mais Seigneur, comme on la chante, ta maison, alléluia. L'œuvre de Dieu, eh bien, elle nous permet toujours de relever la tête. Le Seigneur, il est toujours au-dessus des tempêtes. Et peut-être quelqu'un est-il découragé, peut-être et sans être dans une situation de péché. Mais l'Écriture nous dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Et le sens de ce message, c'est de nous dire que, eh bien, le Seigneur t'appelle à te relever, à prendre une décision renouvelée pour le Seigneur. Il y a eu des temps de réveil dans la Bible. Ces temps de réveil ne se sont pas appuyés sur, eh bien, des capacités personnelles, eh bien, des uns ou des autres, les gens se sont vus misérables, battus à plate couture, etc. Et se frappant la poitrine en disant « mais Seigneur, on est capable de rien, mais Seigneur, relève-nous, Seigneur. » Dieu a entendu leurs cris, il les a relevés, les a restaurés. Alléluia. Et les mêmes sont devenus des héros. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et je voudrais te dire, dans ta famille, dans ton église, dans ton travail, mais reprends la place. Alléluia. Ne cède plus du terrain, bien sûr, avec sagesse, intelligence, discernement, mais ne cède plus du terrain. Alléluia. Amen. Amen. Et ce qui s'est passé, c'est que le fer a été retrouvé, il a retrouvé sa place, l'œuvre s'est terminée, et gloire à Dieu. Amen. 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 Je voudrais qu'on prie le Seigneur à présent et qu'on réponde à l'appel de Dieu. Et à l'appel du Seigneur qui veut nous dire et qui nous appelle à le servir. Et nous, nous pouvons dire ce matin, Seigneur, me voici. Je suis peut-être diminué, je suis peut-être faible, je me sens découragé, mais j'en ai assez d'être vaincu. J'en ai assez d'être dans ce découragement. Seigneur, je veux retrouver mon tranchant. Je veux retrouver mes forces, Seigneur. Et ma force, elle est en Christ. Alléluia. Seigneur, mais cette force est pour te servir. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons. Seigneur, pour ces moments passés sous ton regard. Seigneur, je veux te louer parce que nous sommes ton Église. Et il y a de la joie dans notre cœur. Seigneur, à être dans ta maison, tu nous rends plus que vainqueurs. Mais Seigneur, nous voyons qu'il peut y avoir certaines situations, certaines phases dans les vies où, Seigneur, on peut perdre son tranchant. Seigneur, pour des raisons diverses et variées. Seigneur, ta parole nous dit que tu n'es pas celui qui condamne, mais tu es celui qui relève. Tu es celui qui instruit, qui fortifie. Alléluia. Et Seigneur, je te prie, afin que celui, celle qui a perdu, Seigneur, ce zèle qu'il animait autrefois pour le Seigneur, et bien puisse le retrouver. Et Seigneur, peut-être que le zèle qui a été perdu, peut-être, Seigneur, il était emprunté. C'était pas un zèle qui venait de toi. Mais que ce matin, Seigneur, il y a un zèle renouvelé, que ce soit comme un nouveau départ pour quelqu'un et pour plusieurs. Pour dire, Seigneur, je veux te servir comme tu le veux, comme tu le souhaites, Seigneur, avec le bon état d'esprit. Mais Seigneur, je ne veux plus être dans la défaite. Je veux, Seigneur, prendre la place que tu veux que je prenne, Seigneur, dans ta maison. Alléluia. Parce que le maître, ce n'est pas moi, c'est toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Là, placez-vous quelques secondes vraiment sous le regard de Jésus, en lui disant de ces mots qui forment une disposition d'état d'esprit. Que veux-tu que je fasse ? Que veux-tu que je fasse, Seigneur ? Je suis prêt à te servir. Me voici, Seigneur. Me voici. Dans ma génération, au marché, au supermarché, au bureau, au travail, à la fac, dans mon immeuble, dans ma maison, auprès de mon voisinage, que je fasse la différence, Seigneur. Alléluia. Une lumière là, chez le kiné, chez... Seigneur, à toi la gloire. Que tu veux répondre à l'appel de Dieu. Il veut te dire, viens, suis-moi. Suis-moi, je t'appelle. Alors nous pouvons lui répondre, me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Seigneur, c'est le cœur bien disposé. Seigneur, que nous nous plaçons devant toi. Et ce matin, Seigneur, c'est vrai, nous avons des besoins, nous avons besoin de tellement de choses, mais nous voulons regarder non pas nos intérêts, mais à tes intérêts à toi. Tu nous as tellement fait de bien. Seigneur, tu nous as bénis, Seigneur, au-delà de tout ce que nous pouvons penser. Seigneur, mais voulons faire ta volonté et te dire, Seigneur, me voici pour te servir, Seigneur. Seigneur, c'est, et avant d'être une action, mais une disposition de cœur, une disposition d'esprit, d'un homme, d'une femme qui veut faire la différence dans sa génération, qui veut briller de la lumière de Christ. Seigneur, tu vois celui, celle qui a perdu, qui s'est découragé par des situations que toi seul connais. Seigneur, tu renouvelles. Seigneur, ta parole nous dit que tu n'éteins pas le lumignon qui fume. Seigneur, tu ne brises pas le roseau qui est cassé, mais tu guéris les cœurs brisés. Alors Seigneur, je te rends grâce pour cela. Seigneur, à toi seul soit toute la gloire dans le nom précieux de Jésus. Amen.